Celui à qui cette parole est adressée, que tu puisses vraiment te l'approprier, te l'approprier. Dieu, le Dieu de la restitution. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit, il n'y a personne qui est là pour intercéder, pour dire restitue, restitue. Et dans notre vie de prière, on est appelé à prier pour que l'ennemi restitue ce qu'il a volé. Et Dieu dit, je vais te rendre, je vais te rendre. Waouh, merci beaucoup pour ce temps de louange où le Seigneur a parlé au cœur des uns et des autres, a reconstruit, a fortifié. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cap 25, mais on va, par rapport au mot d'ordre général que le Seigneur indiquait à l'Église pour cette année, acte 20-24, nous sommes chargés de mission. On veut régulièrement, tant le mardi que le dimanche, veiller à ce qu'on reste en bonne forme. En bonne forme, en bonne santé spirituelle. C'est important. Paul disait dans Actes 20, 24, « Je ne fais aucun cas de ma vie. Je fais aucun cas de ma vie, comme s'il m'était précieuse. Pourvu que je reste en forme pour accomplir la mission que j'ai reçue, rendre témoignage de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul faisait tout tourner dans sa vie autour de cette mission. Là où il était messager de grâce, messager porteur de la bonne nouvelle, de la vie en Jésus-Christ. Et il veillait vraiment, il dit, je traite durement mon corps, je fais tout ce qu'il faut pour être en forme spirituellement. Combien c'est important de rester en bonne santé. Et dans la suite d'Acte 20, quand il parle aux anciens de l'église d'Éphèse, là, à Milet, et c'est là où le Seigneur m'a interpellé cette semaine, c'est sur cela que je voudrais nous entretenir ce matin, il dit notamment, je vous ai annoncé tout le plan de Dieu. Je vous ai annoncé tout le plan de Dieu. Je vous ai annoncé tout ce qui était essentiel, tout ce qui était à savoir de la parole de Dieu. Et cette semaine, le Seigneur mettait un fardeau sur mon cœur quant à notre réceptivité de la parole. Comment je traite la parole dans ma vie? Est-ce qu'elle a ce poids? Est-ce qu'elle a cette autorité? La parole de Dieu. J'ai découvert une nouvelle expression cette semaine. Un proche, après avoir écouté une prédication sur Internet, me disait « Waouh, quand même, ce pasteur, il envoie du lourd !» Belle expression, ça. Alors, je crois que ce matin, Jésus veut envoyer du lourd quand même à son Église. Veut nous envoyer, veut nous impacter. Ce qui m'a interpellé cette semaine, à plusieurs prises, j'ai vu ce petit adverbe utilisé dans l'Écriture, « mais ». Dieu dit quelque chose à Balaam, même s'il ne connaissait pas le personnage, dans le livre des Nombres, Dieu lui dit quelque chose de très précis. « Mais !» C'est lui qui dit, mais Dieu dit quelque chose de très précis au peuple d'Israël pour la rentrée en Canaan. Les espions y vont et ils disent, ouais, c'est bien, mais. Oui, mais. On a un petit-fils qui est né le 8 mai. Je pense qu'il y a beaucoup d'adeptes dans l'Église, beaucoup de gens spirituellement nés le 8 mai et qui sont toujours, et ça c'est le risque en nous. Dieu dit, et je pense que même dans le climat prophétique de la louange, quand il était question, ok, empare-toi ce qu'il a dit, fais confiance, arrête avec tes oui mais, parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Jonas, même si en hébreu, peut-être l'expression n'est pas utilisée, oh, je sais que Dieu, oui mais moi je ne veux pas ça, je sais que Dieu va, et ça mine nos vies. Ça mine la parole de Dieu. Paul était là avec les anciens d'Éphèse en leur disant « Je vous ai annoncé tout le plan de Dieu. Ne minez pas votre propre vie en disant « Oui, mais oh, ça, c'est pas sûr. » Ces petites phrases qui font beaucoup de mal. Je suis frappé de voir combien aujourd'hui, tant les hommes politiques que les stars communiquent par des tweets, des petites phrases, mais des petites phrases qui peuvent ruiner des réputations, qui peuvent des petites phrases dans nos vies, des prises de position qui peuvent nous paralyser. Alors je voudrais lire un texte où Jésus, quand même là, il envoie du lourd. Et on va le méditer pour nous aider à rester bien accrochés à tout le plan de Dieu dans notre vie. Et vraiment, sachez que je me place sous le texte aussi, je veux me laisser interpeller par ces paroles. Jésus dit dans Matthieu 18, à partir du verset 7, « Malheur au monde à cause des pièges, des occasions de chute, des pierres d'achoppement, les pierres sur la route, littéralement, qui peuvent faire tomber. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. » Et voilà cette petite phrase qu'on va méditer ensemble. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir tes deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir tes deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Il n'y a pas que le monde politique qui a ces petites phrases. La Bible, elle est sienne. Je crois même que c'est une des caractéristiques de l'enseignement de Jésus. Employer des petites phrases. Si vous étudiez le Sermon sur la montagne, c'est rempli de petites séquences, de petites phrases qui frappent l'imagination, qui frappent l'auditeur, qui retiennent l'attention de celui qui écoute. Je crois que Jésus excellait dans ce genre d'exercice. Alors que, si vous lisez les épîtres de Paul, on voit que l'apôtre Paul prend le temps de démontrer, d'expliquer, d'argumenter à l'aide de longs raisonnements, parfois des phrases de 10, 14 versets. On voit que chez Jésus, il cherche à marquer l'esprit de l'interlocuteur. Comme un joueur de tennis qui monte au filet, qui attaque. Paul est un, comme Björn Borg, un joueur de fond. Jésus veut marquer le point, veut graver sa parole dans notre esprit. Et cette volonté de Jésus est si forte que, à l'occasion, il n'hésite pas à être même excessif. On a déjà vu dans les conditions pour être disciple, tu devras haïr, tu devras préférer. Parfois, dans ce texte-ci, Jésus utilise des images qui sont à la limite du supportable, du tolérable. Si Paul est un professeur, alors Jésus, lui, est vraiment un rabbin, un maître qui enseigne. Et c'est cette voix de notre maître que je souhaiterais que nous puissions entendre ce matin. La voix de notre maître qui nous interpelle à travers quelques petites phrases que nous venons de lire. C'est vrai que lancer des petites phrases mordantes, on en est tous capables. Les politiciens, les publicitaires, et nous aussi, et c'est souvent très dangereux. Ça abîme, ça blesse, ça marque les esprits. Mais je voudrais que, en écoutant Jésus nous enseigner ce matin, nous puissions nous souvenir que c'est Jésus qui nous les adresse. Et pour bien le comprendre, je crois qu'il faut tenir compte de qui il est et de tout son ministère. C'est Jésus qui nous parle. Jésus qui n'a pas dit que des phrases aussi fortes. Il a dit aussi tant et tant de fois, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je suis venu pour les malades, je suis venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Venez à moi, je vais vous donner du repos. » En méditant ces paroles fortes, souvenons-nous de tout ce qu'il est, tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit. Gardons l'ensemble de son ministère devant nos yeux. Il a guéri les malades. Il n'a pas fait qu'enseigner des choses très dures. Il a pu le faire. Mais son regard était sur les pauvres, son regard était sur les blessés, sur les malades. Il a délivré les démoniaques. Il a prié à Gethsémané. Il a pleuré devant les morts. Il a souffert à la croix, il est mort à la croix. Cette petite phrase qu'on étudie de Jésus ce matin, ce n'est pas une maxime isolée de son ministère, ça fait partie d'un ensemble. De lui, je peux entendre cela. Elles sont inséparables de tout son enseignement et de toute sa vie. D'ailleurs, moi, ce qui m'interpelle en méditant cette petite phrase de Jésus, c'est que le Saint-Esprit n'a pas confié cette parole si dure à des prophètes, aux apôtres, aux disciples. Non, le Père a voulu que ce soit le Fils qui nous dise cela. Le Père a voulu que ce soit la démonstration de son amour, celui qui nous aime le plus, celui qui t'aime. C'est à lui qu'il a dit. Dis-leur cela. Celui qui nous veut le plus de bien au monde, c'est lui qui nous adresse ses commandements, ses reproches et ses avertissements. Je dis cela parce que je ne me sens pas digne de vous adresser des paroles aussi fortes, parce que je n'ai ni la force de l'amour de Jésus, ni sa sainteté. Comme vous, je suis là et je dois recevoir, je dois entendre, je dois laisser Jésus m'adresser aussi ses paroles. Avec vous, je veux les recevoir de la part de Jésus, qui est le seul qui mérite de pouvoir nous le dire. Alors on va prendre quelques instants pour le méditer. Si ton œil... Jésus va dire deux fois cela dans l'évangile de Matthieu. Dans le sermon sur la montagne, il va même spécifier, si ton œil droit est une occasion de chute, arrache-le. Si ta main droite est une occasion de chute, si ton pied est une occasion de chute, coupe-le. Parce qu'il vaut mieux que tu rentres borgne, manchot, estropié, boiteux, dans le royaume de Dieu, plutôt que de mourir en enfer. Elle apparaît deux fois, dans deux circonstances différentes. Dans Matthieu 5, ce sera dans le cadre de l'enseignement sur l'adultère. Et dans Matthieu 18, les risques d'être une occasion de chute pour son prochain. Ce qui veut dire que... Cette parole si forte ne vaut pas seulement pour un domaine, ce domaine de l'adultère, mais c'est aussi pour les pièges. Ce qui veut dire que pour toute occasion de péché, ce texte est là. Pas simplement pour un domaine particulier. Pour tout ce qui pourrait m'amener à pécher, ce texte est d'actualité pour moi. Alors, c'est vrai que l'image que Jésus utilise, elle est particulièrement forte, on en conviendra. On a ouvert le culte en parlant de l'imagination, c'est à peine imaginable quand même, à peine tolérable, supportable. L'auto-amputation, si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Se faire couper la main, ça doit être déjà terrible, atroce, mais se la couper soi-même, ça c'est de l'héroïsme ou c'est de la folie. Pour illustrer la situation dont parle Jésus, on pourrait peut-être imaginer un homme qui travaille près d'un énorme engrenage, et qui, par mégarde, retrouve sa main engagée dans le mécanisme. S'il veut échapper à la mort, la seule solution sera pour lui d'avoir assez de courage et de se couper la main pour vivre, de prendre la hache et de couper la main. Alors, pour cet homme-là, il s'agit vraiment de sacrifier un membre pour sauver tout le corps. L'autre image utilisée par Jésus, elle est pire encore, encore moins supportable, celle de l'œil. Il ne s'agit pas seulement de se crever l'œil, ce qui doit être terrible en soi, mais en plus, il s'agit de se l'arracher et de le jeter loin de soi. Le fait que le membre coupé, l'œil, la main ou le pied soit jeté au loin comme un objet dangereux, répugnant, montre en tout cas qu'il ne s'agit pas seulement d'une mesure radicale accomplie de sang-froid, comme une amputation chirurgicale, ça montre en tout cas qu'on peut être appelé à poser des gestes extrêmement vigoureux dans la vie spirituelle. On peut être appelé à poser des gestes dont l'intensité émotionnelle est terrible, très fort. Jésus est en train de dire que dans la marche avec lui, pour être en bonne santé, il peut nous arriver de devoir poser des gestes contre nature. Suivre Jésus, ça peut être à certains moments se faire violence, moralement, mentalement, spirituellement. Si Jésus, pour décrire notre combat spirituel, parle d'organes aussi nobles, aussi précieux que l'œil, que la main, et notez la précision, le droit, le bon côté. Si Jésus, pour parler de notre vie spirituelle, parle d'organes aussi nobles, qui peuvent devenir dangereux, et qu'il faille s'en priver pour échapper à l'enfer, moi, ça m'interpelle parce que on ne réalise pas toujours que ça révèle la profondeur et l'ampleur du combat spirituel, de la vie spirituelle, de la gravité de l'enjeu. On n'est pas toujours conscient que suivre Jésus, c'est quelque chose de tellement sérieux, qui peut parfois amener à poser des choix tellement coûteux, parfois contre nature. Violent. Ça montre l'âpreté de notre combat. J'ai presque envie de dire, ça montre la corruption de la nature humaine. Il y a des moments où cette nature humaine, on va essayer de bien comprendre ce que Jésus dit, mais dans ce combat-là, il y a des moments où ma nature doit être amputée. Il y a une partie pécheresse en moi que je dois traiter avec violence. Et c'est pas évident parce qu'on a tellement l'habitude, on a pris l'habitude de situer la vie chrétienne dans le domaine des médecines douces. Regardez le nombre d'ouvrages dans les librairies chrétiennes où on parle de l'épanouissement de soi, de l'équilibre, de l'harmonie. Ok. Mais il y en a si peu qui me parlent du fait que la vie chrétienne, c'est être aussi plongé dans une chirurgie d'urgence, une chirurgie de champ de bataille, où pour sauver un blessé, il faut couper un bras, il faut couper une jambe. Alors oui, on sort de là borgne, manchot, mais vivant. Jésus dit, mieux vaut pour toi qu'on te coupe le pied. On va essayer de comprendre. Mais j'ai d'abord besoin de réaliser le climat dans lequel ça me met. Moi qui ai si souvent tendance à comprendre la vie de l'Église comme quelque chose toujours tellement doux. Je vous rappelle, l'ensemble du ministère de Jésus, il a dit des choses tellement douces. Il a dit « Venez à moi ». Mais il dit cela aussi pour me montrer que dans mon combat spirituel, dans ma croissance spirituelle, il y a aussi des actes très forts, coûteux. Il y a un combat contre moi-même que je dois livrer. Ou même des organes aussi nobles. On va voir que c'est une image. Je devrais m'en séparer. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot, boiteux, que d'avoir deux pieds et deux mains et d'être jeté en enfer. Alors, comment comprendre? Comment comprendre et mettre en pratique cette parole? Disons, pour respecter le texte, que je ne crois pas du tout que Jésus veuille qu'on le prenne à la lettre, au pied de la lettre. Ça serait mal comprendre tout l'enseignement de l'Écriture qui parle de la beauté du corps, un chef-d'œuvre de Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on abîme son corps. Il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. On sait que les peuplades cananéennes avaient l'habitude, pour certains rites, lors de décès, lors de certains cultes, d'amputer, d'abîmer le corps. Jamais, jamais l'Écriture ne nous encourage à cela. De plus, en Matthieu 5, Jésus dit, si ton œil droit, arracher l'œil droit ne va pas vraiment m'aider à ne plus convoiter parce que je peux le faire aussi avec le gauche. On comprend bien que c'est un langage imagé. Donc rassurons-nous, il n'est pas du tout question, même si certains pères de l'Église l'avaient compris de manière littérale, il n'est pas question d'amputation dans le sens physique du terme. Mais il est quand même question d'arrachement à un niveau moral, à un niveau psychique, spirituel. Et la force de l'image me permet de comprendre l'intensité de ce qui m'est demandé. En méditant cette parole de Jésus, l'horreur de l'image qu'il utilise, je me suis quand même étonné personnellement. Parce que malgré la dureté du langage de Jésus, j'ai quand même l'impression que ça ne nous impressionne plus beaucoup. Peut-être, toi tu lis ça pour la première fois, mais pour ceux qui sont habitués, j'ai l'impression que ça n'a plus beaucoup d'impact. En tout cas, pas assez. On est tellement persuadé que la vie chrétienne doit rimer avec épanouissement, épanouissement de soi. Que l'idée de l'amputation, alors là, on est à 1000 lieues. Jésus le dit. Et on sort notre date anniversaire. Oh ouais, mais c'était, et si vous voyez les exégètes, les pirouettes qu'ils peuvent faire pour nous dire tout ça et tout compte fait, oh, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais nous ne voulons pas que Jésus parle en vain. Nous ne voulons pas que des adverbes viennent détruire, neutraliser ce que Jésus dit. On ne veut pas rester incrédule, on veut l'entendre, on veut laisser à l'Écriture son autorité. Et puis, je pense aussi parfois que nous, en tant que chrétiens, on se dit que la menace du feu éternel, de l'enfer, ça ne nous concerne plus. Et je suis d'accord avec ça. En Jésus-Christ, nous avons l'assurance du salut. Par la grâce, nous avons la possibilité d'entrer au ciel avec nos pieds, avec nos mains, avec nos yeux. Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il faudrait encore parler d'amputation? Mais moi, je me dis, en allant plus loin, que quand ma bonne conscience chrétienne et quand ma bonne doctrine me permettent de neutraliser pareillement les paroles de Jésus, je dois m'arrêter. Quand ma conscience, tout compte fait, et ma théologie neutralise les paroles de Jésus, waouh, attention. Il est temps que je me pose des questions sur moi-même, sur ma bonne conscience, sur ma doctrine. Qu'est-ce que j'en fais? À quoi ça ressemble une doctrine qui a le pouvoir d'annuler la force de frappe des paroles de Jésus? Comment est-ce que je pourrais joindre assurance du salut et indifférence à des paroles si fortes du Seigneur qu'il m'adresse pour mon salut? Comment je peux faire ça? Si ton œil, je dois entendre ça, est une occasion de chute, coupe-le. Moi, je crois que l'œuvre de Dieu dans notre vie, l'œuvre de son amour, l'œuvre de sa grâce, qui seul me pardonne, qui seul me sauve, qui seul me sanctifie, l'œuvre de salut dans ma vie ne me dispense pas d'une attitude responsable. Et je voudrais redire cela, je voudrais me redire, Laurent, l'œuvre de grâce dans ta vie, l'œuvre de salut qui te conduit au ciel, qui va ouvrir les portes, hein, Pierre dit, elle sera largement, ça ne te dispense pas, comme disait Pierre, de faire tous tes efforts. La grâce de Dieu ne me dispense pas d'une attitude responsable, énergique. La grâce de Dieu ne me dispense pas d'un vrai combat contre le péché. Et l'Église aujourd'hui a besoin d'entendre ça. La grâce de Dieu ne me dispense pas d'une vraie discipline de vie, d'un vrai combat spirituel. L'image du chrétien mutilé mais sauvé me montre quelle doit être l'ardeur de ma lutte. Cette image d'un chrétien borgne, manchot, me montre qu'il y a des domaines dans ma vie où il y a vraiment place pour une lutte. Il y a une férocité du combat. Parce que, pensons rien qu'à l'ennemi. Lui ne vient pas avec des doses homéopathiques. Il rôde comme un lion rugissant. Il y a un vrai combat autour de nous. En moi. L'image du chrétien mutilé nous montre quelle doit être l'ardeur de cette lutte. et prévient toute association abusive entre grâce et facilité. Cette image-là nous empêche d'associer la grâce avec la facilité. Et si souvent, pour nous, la grâce, c'est le Club Med. C'est pour ça que si souvent Jésus disait « Tu veux me suivre ? » Ok. Oui, c'est la vie. Oui, c'est l'espérance. Oui, c'est la gloire. Mais sache que sur ce chemin ici-bas, il y aura ma présence bienfaisante. Il y aura mon esprit. Il y aura toute l'énergie. Je vais te puissantiser. Mais comme j'ai dû apprendre l'obéissance, comme j'ai dû souffrir, tu devras aussi souffrir. La grâce de Dieu dans notre vie n'a pas pour fin de nous éviter des résolutions difficiles. La grâce de Dieu n'a pas pour but de nous éviter des décisions difficiles, des sacrifices, des amputations. Au contraire, moi je crois que la grâce de Dieu les rend possibles. La grâce de Dieu n'est pas là pour faire de nous des petits bébés joufflus qui ne font plus rien, qui sont inutiles. La grâce de Dieu, sa vie, me rend justement capable de grandes adaptations. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. J'en ai vu jusque-là. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. C'est quand même Paul aussi, hein, qui était lapidé, qui était flagellé, qui était mis en prison, qui a fait naufrage. Mais il dit, mais c'est la grâce de Dieu qui a permis cela. La grâce de Dieu va me donner l'énergie qu'il faut pour porter du fruit, mais aussi pour arracher ce qui doit être arraché, pour amputer ce qui doit être amputé. Quand tu lis le sermon sur la montagne, tu te rends compte que le péché, notre besoin de renouveler nos pensées par la parole de Dieu. Aujourd'hui, le péché, c'est le péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. Le péché me détruit. Le péché détruit mes semblables. Et que tu regardes Matthieu 5, l'adultère, même un péché qui ne se voit pas, c'est déjà péché. C'est déjà destruction. Il ne s'agit pas de commettre l'acte, mais même en pensée. C'est déjà, dit Jésus. Les pharisiens disaient, oh, l'homicide, tu ne tueras pas. Oui, pas de souci, nous, on n'a jamais tué. Ben oui, mais qui ? La plupart des gens n'ont pas tué. Et Jésus dit, oui, ok, mais vous êtes quand même des assassins. Parce que quand tu te mets en colère, quand tu traites ton proche d'imbécile, tu le tues. Et qu'une traduit, nous sommes tous des assassins. Waouh ! Vous voyez, le combat que nous avons à mener, c'est pas juste de ne pas tuer, c'est pas juste de ne pas commettre l'adultère, mais c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Matthieu 18, on peut, à cause de notre vie, faire tomber d'autres. Sous-entendu, il parle aussi des enfants, les éloigner irrémédiablement de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit, waouh, réfléchissez, s'il y a des choses dans vos vies qui peuvent faire tomber les autres, coupe. Je comprends que mon petit équilibre personnel, que mon petit épanouissement, mon bien-être intérieur, aujourd'hui quand même, il faut rapidement réouvrir tous les centres de wellness, ou je ne sais pas tous les noms, il faut tellement, je ne suis pas contre, hein, je ne suis pas maso, c'est pas ça que je veux dire, mais on est quand même dans une culture du bien-être. Et Jésus s'en occupe. Mais ça ne peut pas devenir ma priorité. Quand j'entends ce texte-là, je dis que mon équilibre personnel, ça passe très loin derrière le combat sans merci dans lequel nous sommes tous engagés. Ma vie, il y a des aspects de notre vie qui sont de l'ordre du combat. Il y a des choses pour lesquelles je dois dire non, il y a des choses pour lesquelles je dois amputer, je dois couper. Est-ce que nous sommes conscient de cela. Ok, on passe par des temps difficiles, mais on voit tous en train de se plaindre et on est tous des victimes. Et crois que si ça devient notre mode de pensée, ça peut être vraiment dangereux. J'ai besoin d'avoir une mentalité de vrai combattant. Il y a des choses pour lesquelles je dis non, je m'oppose. D'ailleurs, regardez, chaque fois quand Jésus parle de cela, de ce combat, à chaque fois, il évoque le feu éternel pour nous rappeler que l'horizon de notre existence, ce n'est pas l'avantage immédiat, ce n'est pas l'épanouissement actuel, mais c'est le sort éternel. Alors oui, je crois vraiment à la grâce qui nous sauve et qui nous conduit au ciel, mais ce que Jésus veut nous dire, c'est que quand il parle du combat, j'ai besoin de me rendre compte que l'horizon de ma vie, ce n'est pas juste maintenant là, que l'horizon de mon existence, c'est l'éternité, qu'il y a des choix à poser, non pas en fonction de juste maintenant, mais que les choix de nos vies, c'est toujours, toujours en fonction du ciel. Où ? Et en vue de cette échéance-là, même si je sais où je vais, en vue de cette réalité qui est là autour de nous, il y a des renoncements, il y a des sacrifices qui s'imposent et qui deviennent par rapport à l'éternité vraiment raisonnables et avantageux. Je crois que parfois on a une vision de la vie chrétienne tellement cavalière. On comprend cette expression ? Tellement légère, quoi. On se dit, oh ben, de toute façon, l'éternité c'était résolu une fois pour toutes à la conversion. Dieu s'occupe du ciel, moi je m'occupe d'ici-bas, prendre mon pied, prendre mon plaisir et c'est bon. Tu ne vois jamais ça dans l'Écriture. Oui, tout est accompli, mais en fonction de cette réalité-là, en fonction de l'éternité, de mon éternité et celle des autres, c'est en fonction de ça que je prends mes décisions. C'est comme cela que je choisis dans ma vie. Pas juste pour ce que ça me donne maintenant, mais en fonction de l'éternité. C'est l'horizon éternel qui est la mesure de notre vie. C'est l'éternité qui est la norme. Et ça, c'est difficile pour nous. On vit dans une arène temporelle. Ici et maintenant. Tout maintenant. La Bible dit non. Fais toujours tes choix en fonction de demain, en fonction de l'éternité. Et si quelque chose pose problème maintenant, même si ça semble tellement agréable, notez que c'est pour ça que Jésus prend cette image de membre tellement précieux, un œil, une merveille, une main, tellement de capacité, un pied. Mais par rapport à l'éternité, si ça pose problème, il vaut mieux. Il vaut mieux couper. C'est par rapport à l'éternité que prend son sens la recherche de mes intérêts ou les sacrifices. C'est par rapport à l'éternité que j'envisage mon bien-être. Les disciples cherchaient, voulaient suivre Jésus. Et Jésus leur disait, tu veux me suivre ? Bon, sache qu'avec moi, il ne dit pas qu'on ne peut pas avoir de maison. Il dit, mais en tout cas, à ce moment-là, suivre Jésus, il y aura un inconfort. Tel est donc l'état d'esprit dans lequel nous place cette parole de Jésus. Et je crois que ça doit être, et je vais terminer maintenant, plus qu'un état d'esprit. Parce que je crois qu'il y a peut-être des choses que je dois faire dans ma propre vie. Et on en arrive à la partie peut-être la plus délicate du travail que doit accomplir cette petite parole de Jésus. Jésus ne me demande pas seulement de renoncer à ce qui est mal dans ma vie, ce qui est douteux, mais il est en train de nous demander d'aller jusqu'à amputer ce qui pourrait nous paraître essentiel, comme faisant presque partie de nous-mêmes, et qui pourtant ne plaît pas à Dieu. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Je te demande, bien sûr, de tout ce qui est cancéreux, mauvais, noir, de t'en séparer. Laisse Jésus te montrer. Mais il pourra arriver que même des choses qui semblent bonnes, mais qui pour toi sont dangereuses, pourraient te faire tomber ou faire tomber d'autres dans le contrat qu'on a ensemble. Couple, donne-le-moi. Et ça, ça va impliquer des déchirements. Ça va impliquer des actes d'obéissance coûteux, des souffrances, comme Jésus. L'Écriture nous dit, globalement de son ministère, il a quitté le ciel de gloire. Il a amputé sa gloire. La kénos, il s'est dépouillé. Pourquoi ? Pour nous. Pour nous. C'est une philosophie du ministère. C'est une philosophie de la vie de disciple. Ce n'est pas que ça, d'accord ? Et si vous pensez que je ne prêche que sur ça, regardez les autres textes. Quelqu'un, dernièrement, disait, tu parles quand même beaucoup de la grâce, toi. Oui, mais parce que la grâce ne m'empêche pas de garder cette philosophie que, même en étant sauvé, comme mon maître, ça peut arriver dans nos vies, quand il me demande que ce soit des choix coûteux, qu'il y ait vraiment des amputations. Alors, peut-être maintenant, nous ne savons pas clairement ce qui déplaît Dieu dans notre vie. Ce qui peut-être est incompatible avec notre marche avec lui. Je nous invite à prendre le temps nécessaire dans l'intimité avec le Seigneur et de lui laisser la possibilité de nous montrer. Il ne s'agit pas de rentrer et de dire « Chérie, je vais couper ta main. » Occupe-toi de ton pied, de ton œil. Mais laissons Jésus, sa grâce et sa vigueur, nous interpeller. Pour que nous remontions sur le champ de bataille, arme à la main. Oh, peut-être amputé, peut-être borgne, mais vivant pour l'éternité. L'Église, c'est aussi ça. Ce n'est pas un club qui est privé de ses activités le dimanche. Non, 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 non. C'est un peuple de soldats. Paul termine sa vie, j'ai combattu le bon combat. Où il y a un bloc opératoire en vue d'un rétablissement immédiat pour une reprise instantanée du combat. Je ne peux pas rester toute ma vie comme une épave et me plaindre de ceci et de cela. On ampute et on avance. Et on remonte sur l'aire de combat. Le 8 mai, c'est notre danger de paralyser ce que Jésus nous dit. Seigneur, donne-nous vraiment cette honnêteté devant toi, cette grande sensibilité à ta voix. Tu ne me dis pas que ça. Ta grâce nous suffit, ton amour nous suffit. Mais je veux aussi te suivre dans tout ce que tu me demandes. Et peut-être que pour les uns et les autres, il y a des domaines de notre vie où je me souviens d'un professeur à l'Institut biblique qui disait qu'il avait dû excusez-moi, couper le câble télédistribution, la télévision. Un autre avait dû se séparer de sa moto, un autre ceci, un autre cela, parce que ça posait problème. Laissons Dieu nous montrer. Prions ensemble. Seigneur, merci pour la force de ton appel. L'irrésistible grâce qui nous a touchés, ce salut qui nous comble, qui nous rend participants de ta nature. Et tu l'as fait avec des terriens comme nous, attachés à la terre, qui ont pris plaisir, Seigneur, à l'odeur de la terre, et qui sont parfois tellement récalcitrant par rapport à ce qui est de ta vie spirituelle. Je te prie vraiment que tu fortifies notre volonté pour que nous acceptions quand c'est nécessaire. Pour ne pas tomber, Seigneur, pour ne pas déshonorer ton nom, pour ne pas commettre l'irréparable, donne-nous de pouvoir être vigoureux, d'oser dire non. Non, je ne touche pas, non, je ne fais pas, parce que je ne parviens pas à le gérer. Pour protéger mes frères et sœurs. Donne-nous d'apprendre, Seigneur. Donne-nous d'apprendre. Accepter ce chemin étroit, parfois accidenté, mais tellement bon. Parce que c'est un chemin d'éternité. C'est le chemin où l'armée de l'Éternel est là, où les anges de l'Éternel sont là. C'est le camp de Dieu. Le camp de Dieu. Nous voulons, Seigneur, te laisser façonner notre mentalité. Nous voulons que nos repères, ils soient divins et pas purement humains, Seigneur. Donne-nous de prendre ta parole au sérieux. Donne-nous de la lire, de la méditer, de la graver dans nos cœurs, Seigneur, pour entendre audiblement ta voix. Que ta grâce nous rende capables de tous les choix que tu nous invites à opérer dans nos vies. En Jésus. Amen.